Bonjour chers auditeurs, nous sommes dans le studio avec notre invité de ce jour, Michel Petit, maître verrier et maître d'art depuis 1996. Maître d'art, c'est un titre de grande valeur car ce sont des professionnels d'excellence qui, en France, selon la définition du ministère de la Culture et de la Communication, sont ainsi reconnus par leur père pour leur expérience, leur expertise et leurs compétences pédagogiques. Bonjour Michel Petit.
Bonjour.
Vous êtes maître verrier à Tivard. Peut-être vous travaillez moins qu'il y a quelques années, mais ouais. Je vous ai invité parce que vous avez eu l'immense privilège de restaurer un vitrail réputé sur le plan international, Notre-Dame de la Belle Verrière de la cathédrale de Chartres. Oui. Quand est-ce que cela s'est passé ?
En 1990.
En 1990. Oui. Peut-être pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment se passe la restauration d'un vitrail ? Quelle est la manière dont se déroulent les procédures ?
Alors, il y a déjà eu un choix. Évidemment, il y avait une sorte de concours, malgré tout, pour l'attribution. Et, bon, j'ai eu la chance d'être l'heureux gagnant en fait de ce concours, mais qui, si vous voulez, c'est quand même pas un hasard puisque le laboratoire de Champs-sur-Marne des monuments historiques a été créé en 1970 et depuis les débuts, j'avais travaillé avec les ingénieurs, notamment avec Jean-Marie Bettembourg, malheureusement disparu. Et surtout les problèmes qui pouvaient se intéresser le vitrail au niveau de la corrosion, au niveau de la qualité des grisailles, au niveau de la protection. Donc j'étais un habitué privilégié du laboratoire, ce qui fait que ma désignation a été assez normal.
Naturel, effectivement. Parce que rappelons aux auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas le vitrail de Visu, il s'agit d'un vitrail dans le déambulatoire sud de la cathédrale de Chartres, dont quatre panneaux sur fond rouge datent du XIIe siècle. Selon les datations officielles, deuxième moitié du XIIe.
Pardon.
Selon la datation officielle, deuxième moitié du XIIe.
Oui, théoriquement, 1180. Mais.
Est-ce qu'on peut avancer un peu la date et dire, selon la couronne, par exemple, qu'on voit qu'il pourrait s'agir d'un vitrail plus ancien?
Personnellement, j'ai l'impression que c'est une réalisation qui est plus ancienne.
Plus ancienne. Ça correspondrait à ce qu'un historien héraldiste a dit, Hervé Pinotto, que la couronne serait celle de Charles le Chauve. Et lui-même, il émet la théorie que le vitrail pourrait dater de la première moitié du XIIe. Donc, vous n'irez pas forcément... Donc vous pourriez confirmer.
C'est plutôt mon option.
Donc des archaïsmes. Peut-être pouvez-vous rappeler quelles sont les caractéristiques d'un vitrail qui, pour vous, est plus ancien qu'on ne le date d'habitude. Donc archaïsme dans le style de peinture.
Oui. C'est le peintre. Alors évidemment, on a eu la chance de nettoyer ce vitrail qui était recouvert, enfin en plus des corrosions. Bon, donc, d'abord les corrosions externes qui ont été
Pourquoi
retirées.
Est-ce qu'il y a la corrosion ? On connaît la corrosion, la rouille sur le fer, mais que se passe-t-il sur le verre ?
Alors, les verres, oui, il faut définir la qualité des verres du XIIe siècle de Notre-Dame de la Belle Verrière. Les tons rouges étaient les tons rouges et les pourpres étaient très corrodés. Le vert bleu.
Veut dire, dans l'art de vitrail, il y a des couches d'altération qui font que le verre ne laisse plus passer la lumière.
Oui, c'est ça. Mmh. Mais alors, quand on parle du bleu de Chartres, il s'agit du bleu du XIIe siècle. Donc le vert bleu du XIIe siècle, qui est un vert sodique, alors que tous les autres sont potassiques. Le vert sodique du vert bleu de Chartres, notamment celui de la Vierge, de la Belle Verrière, n'a aucune corrosion depuis le XIIe siècle. Aucune corrosion.
Voilà. Donc la soude qui entre dans la préparation du verre est un élément qui a préservé le verre de cette altération. Et il est resté...
Voilà, c'est la qualité du verre.
Translucide pendant de longs siècles.
Ce qui fait que...
Mais je vous interromps, excusez-moi, mais comment cela s'explique-t-il si tous les autres verres sont divers?
Oui, alors l'explication... elle est relativement simple. Au laboratoire de chant, l'analyse a été faite du verre. On avait l'analyse complète. Et en plus, si vous regardez avec des jumelles un certain nombre de pièces bleues, vous verrez qu'il y a des bulles et souvent des grandes bulles. Et j'ai eu l'occasion quelques années, au moment de la restauration pratiquement, de rencontrer Monsieur Gratus, qui est un ingénieur du CNRS, et qui est le ses travaux en fait se sont orientés pour la totalité sur les verres bleus au cobalt de toutes les époques et de toutes les régions du monde. Et quand je lui ai montré les photos des verres bleus de Belleverrière, et il m'a dit moi ça c'est un verre que je connais très bien, il vient du midi de la France, c'est un verre sodique du midi de la France avec des bulles, on connaît ce verre là depuis les gallo-romains, et c'est donc un verre sodique qui était fabriqué dans le sud de la France. Il est sodique parce que la soude provient de ces petites plantes qui poussent les haricots de mer, qui poussent et qui sont sodiques le long des côtes. Donc,
est-ce qu'on les trouverait aussi en Bretagne ?
Pardon ?
Est-ce qu'on les trouverait aussi en Bretagne ou la salicorne,
oui.
Est-ce qu'elle a le même effet ou pas ?
Ah oui, si on en trouve aussi, oui.
Mais par contre, le cobalt, est-ce qu'il provient de la même région ?
La seule chose que l'on ne connaît pas, c'est la provenance du cobalt. Il n'y a aucun document qui nous renseigne, en fait, depuis les Gallo-Romains, comment, d'où était la. Enfin, sans doute d'Orient. Hein,
ou en Bohème, il paraît que en Bohème, on aurait des gisements en Bohème ou en Freiberg en Saxe.
Voilà, bon, oui. En fait, on n'a jamais su si c'était Bohème
qu'on peut affiner la l'analyse de la composition des verres à tel point qu'aujourd'hui on peut, en raison des impuretés, déterminer les gisements, paraît-il. Oui, donc les laboratoires avancent dans ce sens-là.
C'est possible que maintenant, enfin, il y a des possibilités un peu plus pointues qui puissent nous renseigner là-dessus. Alors il y a une chose qui est. Et quand on m'a donné cette restauration, on m'avait donné aussi des indications de Louis Grodecky, en fait, sur la Belleverrière, qui, je reviens à ce que vous disiez à propos du peintre de la Belleverrière, il avait attribué, en fait, ne voyant pas de corrosion, il avait attribué à Gaudin en 1906 la Belleverrière presque dans son intégralité. Si bien que j'ai eu la chance de trouver une pièce au-dessus du genou de la Vierge, une pièce qui est assez visible, une petite pièce du verrier du XVe siècle. Et ce verrier du XVe siècle a eu c'était un excellent restaurateur et il a refait le type de peinture de son prédécesseur au XIIe siècle, ce qui m'a permis de pouvoir affirmer quand j'ai découvert ça, j'ai appelé Anne Prach et qui était venue et voilà, on avait eu la bénédiction d'Anne Prach sur la qualité des verres du XIIe siècle. Amen.
sommes dans le studio en train de parler avec Michel Petit de la restauration de Notre-Dame de la Belle-Verrière, célébrissime vitrail dans le déambulatoire sud de la cathédrale de Chartres. Et la restauration a été initiée en
1990. Oui.
Et vous nous parliez en introduction de la genèse de ce projet de restauration et que le bleu de Chartres, le bleu cobalt du XIIe oui. siècle avec lequel a été faite la robe de Notre-Dame, était si immaculé, oserais-je oui. le dire, après oui. avoir écouté Gaudens Gaudebo, oui, cette oui, pièce de la fête de l'Immaculée Conception, si pure de toute trace de corrosion qu'un grand historien, Louis Krodecki, c'est quand même pas n'importe qui dans l'art du vitrail, a cru que ce bleu avait été restauré
oui,
par, par l'atelier Gaudin mm-hmm. en 1907.
6, 7, 8 ans sur 2 ans.
Donc, vous nous aviez dit que ce vitrail, pour vous, peut très bien être daté de la première moitié du XIIe siècle, oui, pour résumer oui. ce que vous avez dit, en raison de l'archaïsme de oui. la peinture, le style oui. de peinture. Et auriez-vous la gentillesse de nous dire que en quoi la grisaille que vous avez découvert après avoir nettoyé des pièces oui. que l'on croyait modernes,
oui.
en quoi vous avez pu découvrir que les pièces étaient du XIIe?
Voilà. Donc, on a eu la chance de découvrir cette petite pièce du XVe siècle mmh. sur le genou de la Vierge, qui est un bleu qui est assez bien accordé. Et le peintre du XVe siècle, avec une grisaille bien sûr différente, un
donc
travail différent.
Donc la grisaille, c'est la peinture vitrifiable.
Oui, avait repris le mode de travail du peintre de la Belle-Verrière, c'est-à-dire du trait, simplement, enfin un trait assez large au pinceau. Il peignait en deux fois, enfin il passait sa brosse en deux fois, un grand coup de brosse, et puis un deuxième coup de brosse, et ensuite, pour éclaircir, il n'y avait pas de demi-teinte comme ça se faisait théoriquement à l'époque. C'était simplement un petit zigzag dans la grisaille fraîche hein, qui donnait
donc
des.
On enlevait, on grattait la couche de peinture sèche, on enlevait avec des plumes. Ou
voilà, avec un stylet, un enlevé qui donnait ces dégradés. Alors le peintre, la chose heureuse, c'est que le peintre du XVe siècle avait imité. Et comme on pouvait dater la pièce du XVe siècle...
Comment est-ce qu'on peut dater une pièce du XVe siècle? Je sais que vous êtes un grand expert, justement, en datation.
Il y a la qualité du verre, déjà, et puis la qualité de la grisaille et la façon de peindre la grisaille. Donc, il y a trois critères incontournables. Donc, à partir de là, à l'évidence, l'ensemble des bleus de Notre-Dame de la Belle-Verrière était authentique. Voilà, et ça a été. J'ai pu joindre Madame Prache, qui
rappelait son titre à l'époque.
Voilà, qui a reconnu tout à fait l'authenticité de l'ensemble.
Anne Prache, elle était inspecteur des monuments historiques. Elle était grande responsable dans l'art du vitrail, dans le domaine du vitrail.
C'était médiéval, en fait, mmh. qui était la personne la plus qualifiée en France, hein, pour l'architecture, notamment médiévale.
Mmh. C'est une grande découverte. On croyait que le bleu avait été restauré et on oui. va découvrir grâce à votre restauration en 90 oui. que oui. ce bleu est du XIIe siècle.
Alors, il faut reconnaître que vers 1830, il y a eu une couche de mastic qui a été apposée sur l'ensemble de la fenêtre. Et curieusement, en fait, on venait de découvrir les mastics en France, ça nous venait d'Angleterre. Et c'était un mastic.
Mais les mastics pour étanchéifier les joints.
C'était un mastic, non, pour obscurcir les vitraux. C'est
l'époque
romantique. On voulait obscurcir le lieu. Le mastic était constitué, donc il avait été analysé à Champs-sur-Marne. Huile de lin, blanc de Meudon, et puis une résine Elemi.
Mais alors, il n'y a pas mieux pour éteindre un vitrail que d'appliquer.
C'est extrêmement difficile d'extraire ces mastics.
Est-ce que vous êtes parvenu? Je sais que alors, les vitraux du bas-côté nord, on avait aussi appliqué la même patine à l'huile
de
lin.
Il y a eu.
Comment est-ce qu'on peut enlever ces patines qui se sont incrustées dans le verre qui est poreux?
Donc, au niveau du laboratoire, au niveau de champ, ce qu'on regarde, c'est la qualité des grisailles. Est-ce que les grisailles sont solides et peuvent supporter une immersion? Auquel cas, on fait une immersion en eau tiède, parce que le soir, il faut rentrer les vitraux, les protéger. Donc, pour accélérer un petit peu, l'eau était à 40 degrés. On avait des bains sur des grandes tables, on avait des bains qui permettaient de faire des trempages journaliers et de retirer avec une brosse légère les mastiques qui s'en allaient petit à petit. Alors il y a eu, sur des panneaux, il y a eu 7, 8 ou 9 de trempages successifs. Et cette opération a été menée de septembre à décembre. Avec un contrôle, j'y tenais beaucoup, en fait, un contrôle semaine après semaine, à l'atelier, avec, on faisait des relevés toutes les semaines des actions qui étaient entreprises sur les panneaux. Et voilà, donc ça permettait à chaque réunion de travail qui se tenait le vendredi, de faire le point avec notamment Guy Nicot, l'architecte en chef, avec Monsieur Eulot, qui était conservateur régional. Et voilà, donc ça a permis, semaine après semaine, d'avancer dans la restauration et de redécouvrir l'ensemble des grisailles. Alors les décisions, bien sûr... Les décisions étaient communes, en fait, par ce groupe. Et ce qui a permis de... le verrier peut être tenté, en fait, de mener sa barque un peu pour se faire plaisir. Il faut au contraire un peu plus d'abnégation et
Donc apporter votre savoir-faire, mais il y a une concertation et l'État responsable va prendre des décisions définitives.
Les décisions sont collectives voilà, donc
restauration, et rappelons que la tête, par contre, la tête de Notre-Dame de Belverrière n'est pas du 12e.
Elle est de Jean Gaudin.
Donc 1907.
Hein, 1906.
Et vous avez eu un autre problème à résoudre, puisque la tête avait été inclinée vers la droite par Jean Gaudin à l'époque. Comment est-ce qu'on a résolu le problème? Faire? Parce qu'une Vierge romane, elle a une position de majesté avec la tête droite sur son cou.
Oui, il y a eu plusieurs cabales au sujet de... Bon, on s'y attendait un peu, mais bon. Et il a fallu protéger la tête, déjà. Pour la simple raison...
Qu'est-ce que vous appelez protéger?
Un certain nombre de personnes voulaient mettre un nouveau visage de la Vierge au concours. Parmi les verriers. Moi, ça m'avait rendu totalement irascible, hein, parce que la Vierge de la Belverrière, elle est connue mondialement avec ce visage. Donc, remettre en cause ce visage, pour moi, c'était totalement absurde, puisque ce visage était connu depuis un siècle, siècle et demi.
On a pu garder visage de Notre-Dame de la Belverrière.
Alors, on lui reprochait de ne pas être suffisamment hiératique.
On parlera après une petite pause musicale, justement, de ce tollé qui avait été soulevé.
Thank you.
Écouter une autre pièce en l'honneur de la Vierge Marie. Vous aviez souhaité qu'on joue tout à l'heure, qu'on fasse écouter plutôt le Gaudens Gaudebo, parce que c'est une pièce de l'introïte de l'Immaculée Conception. Et...
Oui, parce que notamment, bon, ça correspond tout à fait à cette description de la Vierge. Et, j'avais
Parce qu'il est question du manteau.
Oui.
Du manteau et c'est son vêtement de grâce.
Et je l'avais présenté à l'atelier, je crois que c'était un dimanche d'ailleurs, en 90. J'avais présenté les panneaux à l'atelier ce jour-là.
Ça tombait sur un dimanche, cette année.
Oui, voilà, voilà, avec justement Gaudens Gaudebo dans l'invitation. Oui, voilà.
Alors, vous parliez juste avant la pause musicale de la tête de Notre-Dame de Verrières, qui n'est pas d'origine et qui, en plus, avait été un peu inclinée.
Oui.
Il a fallu résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ces têtes?
Oui.
Est-ce qu'on fait un concours? Est-ce qu'on repeint le visage? À l'époque, on se posait la question.
Oui.
Et puis, finalement, il a été décidé de garder la tête et de la redresser légèrement.
Légèrement.
Elle n'est toujours pas complètement à la verticale.
Il y a une pièce sur le l'épaule de la Vierge du côté droit du panneau, qui est une pièce 19e. Et en fait, il se trouve que quand le verrier a remonté le panneau, on remonte le panneau par le côté gauche. Par le côté droit, la pièce était plus grande, ça a poussé ses pièces, et le visage de la Vierge était penché sur la gauche. Donc, pour le remettre absolument en droit, j'étais absolument contre ce genre de choses. J'ai fait juste une concession sur des calages qui existaient dans les panneaux et j'ai légèrement calé le bas du panneau à droite pour redresser légèrement le panneau.
Ah, donc vous avez laissé la tête,
mais
vous avez retressé le panneau. Vous avez retressé le panneau.
Je l'ai un peu redressé, si bien que la Vierge est moins penchée qu'elle ne l'était à l'origine.
Oui, parce qu'il aurait été extrêmement difficile de retresser la tête, puisqu'il fallait,
qu'il aurait fallu remettre
cruger
en plomb.
La tête aurait dû être remise en plomb,
limbe.
Mais c'est une astuce admirable.
En même temps, si on regarde, par exemple, il y a une Vierge du XIIe siècle à Vendôme,
très connu,
la Trinité de Vendôme,
et
la Vierge, si vous regardez, elle penche
le
visage légèrement à gauche.
On pourrait expliquer
donc,
peut-être
l'approche
de Gaudin par ce point.
Non, j'avais fait une petite brochure à ce moment-là pour protester.
Et rappelons que vous avez résumé tout votre travail de restauration sur Notre-Dame de la Belle Verrière dans la revue Vitraya,
éditée par le
Centre International Vitraille en 11.
Il y a juste 20 ans. Oui, monsieur Lager m'avait demandé un article qui relate totalement
La genèse et puis l'intervention. Et vous vouliez nous parler un peu sur le lien entre Notre-Dame de la Belle Verrière, qui porte une robe bleue, et son enfant, le Christ, habillé en
parce
brun.
Les choix de couleurs au Moyen-Âge, pour les personnages, ce n'est pas anodin, en fait.
Symbolique.
Il y a toujours une raison, un choix. Alors déjà, si on regarde la coloration générale, le choix, la Vierge bleue avec l'enfant, alors brune, sur le fond rouge. Le fond rouge qui est aussi celui, en même temps, celui de la passion. Donc c'est pas anodin non plus, en fait. Et de façon heureuse, ça a été repris dans les panneaux successifs. Par le restaurateur du XIIIe siècle. On a ces fonds rouges qui viennent en alternance redonner un ensemble très cohérent de l'ensemble.
Alternance entre rouge et le bleu, ouais, comme dans les fonds, autres vitraux, oui, à Chartres. Oui.
Et alors, de fait, la Vierge, elle a son manteau bleu virginal, et l'enfant, est donc c'est la Vierge céleste. La Vierge céleste, avec son nimbe céleste bleu, qui donne naissance à l'enfant, l'enfant terrestre. L'enfant vient sur terre par la Vierge avec sa robe terrestre brune.
Parce que vous avez constaté que ce n'est pas un vert violet pourpre qui, en présence du manganèse, aurait pu virer vers le brun.
C'est un vert pourpre.
C'est un vert qui était brun à l'origine. Même le pourpre peut avoir.
On a des pourpres clairs, des pourpres pour les visages par exemple, et puis des pourpres soutenus pour les vêtements.
Et là,
en fait, si vous voulez, on a une réponse qui est intéressante dans l'oculus que j'ai restauré aussi en même temps, l'oculus du XIIIe siècle, où le verrier du XIIIe siècle a complètement alterné les couleurs. La Vierge allaite l'enfant, elle est terrestre, elle a une robe marron pourpre. Elle est terrestre et l'enfant a une robe bleue parce qu'il est céleste. Donc la Vierge terrestre donne l'allaitement à l'enfant Dieu céleste. C'est l'inverse de la belle verrière.
Donc une fois on met l'accent sur l'incarnation de l'enfant de Dieu.
Oui, tout à fait. C'est une réponse au XIIIe siècle. Là, il y a l'autre réponse qui est du XIIe siècle, qui est celle du livre. Le livre qui est très visible maintenant et qui c'est Omnis valis in plebitur, toute vallée sera comblée, qui est une phrase. Alors Anne Prach faisait remarquer que c'était la première fois que l'enfant tenait le livre sur ses genoux
Donc ce vitrail est extraordinaire à tout point de vue. Et je suis absolument désolée de ne pas pouvoir continuer cet entretien avec Michel Petit, maître verrier qui a restauré Notre-Dame de la Belle Verrière dans la cathédrale de Chartres. Je suis sûre que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau, car vous avez vu et traité et restauré et sauvé ce grand vitrail. Et vous avez souhaité qu'on termine notre émission sur la musique de la Carmina Burana, puisque c'est la musique choisie en 92 pour la repose du vitrail dans le déambulatoire de la cathédrale de Chartres. Je vous dis au revoir et merci beaucoup, Michel Petit.
Merci beaucoup.